Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau faite aujourd'hui par Pierre Hiverna de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, notre partenaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Une cerise sur le gâteau en forme de documentaire, c'est ça aujourd'hui?
C'est ça, un documentaire que j'ai vu sur Arte qui s'intéresse à nourrir son cerveau.
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine aujourd'hui?
Eh bien c'est Mathieu Demy, le fils d'Agnès Varda et de Jacques Demy, que j'ai rencontré dans le 14e arrondissement, dans la maison d'Agnès Varda.
Dans le 14e arrondissement de Paris, bien évidemment. Matteo Caranta, ça sera à 12h15 cette madeleine. Et puis aujourd'hui, on a décidé, quant à nous, d'une émission entièrement sucrée. Une madeleine, une cerise sur le gâteau, mais pas de plat du jour. On passe directement au dessert, en compagnie de l'un des chefs pâtissiers les plus renommés, un maître de la pâtisserie qui fut l'entraîneur de l'équipe de France championne du monde de pâtisserie en 2003. Il a révolutionné les desserts et donc une partie non négligeable de la cuisine française. Joël Robuchon le surnommait le roi des desserts. C'est un cuisinier au cœur tendre et fondant. Comme son chocolat, d'ailleurs. Et il considère la pâtisserie comme un réconfort, lui qui a connu des très hauts et des très bas. C'est ce qu'il raconte, il s'en explique, dans un livre qui a paru en septembre dernier et dans lequel il se raconte entièrement. Ce livre a pour titre « Cochon de lait ». Bonjour Philippe Conticini.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci de m'accueillir.
Cochon de lait, alors on ne s'attendait pas à lire cochon de lait sur la couverture d'un livre rédigé par vous, mais vous expliquez bien que tout est parti d'une côte de cochon de lait que votre frère a cuisiné à la table d'Anvers, qu'il vous a fait goûter, et vous dites même que c'est votre acte de naissance. Vous aviez 23 ans.
23 ans, oui. Ça remonte. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cette côte de cochon de lait?
En fait, on vient d'ouvrir un restaurant avec mon père et mon frère, qui s'appelle plaît à l'époque la table d'Anvers, et les premiers jours on a peu de monde le midi, un peu le plus le soir mais assez peu finalement, et mon frère me dit bah écoute, tu connais pas bien ma cuisine finalement, donc assis-toi, je vais te faire goûter des plats. Et lui fait une côte de cochon de lait épaisse de 7-8 cm d'épaisseur, et il l'a fait surtout démarrer à la poêle avec un feu assez vif, donc caramélisé à l'extérieur, et il la termine au four, il me la sert rosée avec une purée de pommes de terre ultra foisonnée, c'est-à-dire très aérée, extrêmement bonne, je fais toujours la même aujourd'hui d'ailleurs, et avec un jus, on appelle ça un jus gras, donc un jus extrêmement parfumé, qui est bon comme du bonbon, et qui sent le cochon, bien sûr, grillé.
Et là, vous avez une émotion comme vous n'avez jamais eu.
J'ai jamais ressenti ça. Mes parents étaient restaurateurs, moi j'avais l'habitude de goûter quand même, j'étais biberonné à la nouvelle cuisine, mais ce type d'émotion, jamais. Tout est tellement, tellement bon, et tellement bien réalisé, et tellement bien fait, que c'est l'émotion que je ressens à ce moment-là. Le lendemain, il fait, dans le désordre, j'ai plus tout ça en tête, mais une sorte de curry de lapin, mais pas du tout piquant. Très, pas sucré, mais bon comme du bonbon, pareil. Mais j'ai encore le goût dans la bouche, c'était hallucinant. Le surlendemain, c'était un hamburger de riz de veau, et ça dure 4-5 jours. Et au bout de 4-5 jours, là oui, effectivement, je me dis, mais c'est pas possible, moi je fais des desserts à l'assiette, là, on vient d'ouvrir.
Oui, parce que vous faisiez des desserts, vous.
Oui.
C'est pas là que vous avez commencé à faire des desserts, vous en faisiez déjà.
Je faisais des desserts à l'assiette. Et donc je me dis, ils sont bons, mais pourquoi je ressens pas ça dans mes desserts, quoi, dans mes gâteaux? Et moi, je m'en fous qu'ils soient bons, très bons, je veux ressentir ça dans mes gâteaux. Et à partir du moment où je me suis posé cette question, tout a commencé, en fait. C'est comme Rimbaud qui a dit, je suis né à 21 ans, ben moi je suis né à 23 ans, après une côte de cochon de lait, quoi, voilà.
Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui ce qu'est un bon gâteau qui procure cette émotion-là, Philippe Conticini?
Ouais, c'est une question difficile. Alors, oui, mais toujours avec des guillemets, parce que d'abord chacun a son goût. Mais par contre, l'équilibre, c'est autre chose. L'équilibre, c'est l'équilibre. Notre goût à nous, c'est notre goût à nous. On peut très bien trouver qu'un plat, ou peu importe, un cocktail, ou ce qu'on veut, soit extrêmement bien réalisé, extrêmement équilibré, et même extrêmement bon, et pour autant, ne pas aimer parce que c'est amer, pas aimer parce que c'est acide, ne pas aimer parce que. Et donc, un bon gâteau, c'est un gâteau qui va être très très bon, mais qui, au-delà de tout ça, et là, je vais pas l'expliquer plus que ça, parce que, laissez-moi 2 heures et ça pourra le faire, mais il faut que le gâteau soit extrêmement équilibré. Et ça, c'est rare. s'il est équilibré, les gens qui vont dire « moi j'aime bien le marron, j'aime pas quand il y a de l'orange dedans », une fois qu'ils l'auront mangé, si le gâteau n'est pas équilibré mais qu'il est bon, vont dire bah, « c'est bon, mais je reste sur ce que je pense ». Par contre, et ça je l'ai vécu plein de fois, si c'est équilibré, c'est-à-dire un vrai travail construit, réfléchi, structuré, et surtout qui sort de ce que l'on est, c'est-à-dire de là, du cœur, là pour le coup, la personne va dire « bon, effectivement, je préfère quand c'est du marron, mais là je reviens et j'achète ça ». C'est l'équilibre, c'est quelque chose de, et c'est ça qui est long à expliquer en fait.
Oui, mais cet équilibre, vous y arrivez avec un certain nombre de techniques et de savoir-faire, évidemment, Philippe Conticini. Mais on peut essayer de donner quelques petites recettes, quelques petites clés de compréhension. Par exemple, et ça peut-être que la côte de cochon de lait, et puis les plats que vous avez goûtés ensuite vous ont servi. Vous avez travaillé l'assaisonnement, comme l'a fait à ce moment-là votre frère. L'assaisonnement, c'est-à-dire que vous avez utilisé des techniques de cuisine salée que vous avez intégré dans vos desserts. Alors c'est quoi? Bah par exemple, c'est, vous le dites dans votre ouvrage, c'est des braisages, c'est des bouillons, c'est des purées, c'est des consommés, c'est des jus courts. Mmh. On n'imagine pas ça. Ça donne l'équilibre qui produit l'émotion ensuite, par exemple.
Ça donne le début de mon travail. C'est pour ça que c'est compliqué d'expliquer ça, parce que il fallait bien que je commence par quelque chose. J'étais tout seul, quand mon frère m'a pas vraiment expliqué, donc j'ai fait ça. J'ai commencé par les techniques de cuisine que lui mettait dans sa cuisine, et je les ai intégrées à ma pâtisserie. Donc au début, j'ai tâté, mais j'ai fait des choses qui étaient pas réussies, pas bonnes, et puis petit à petit, j'ai commencé à trouver l'équilibre entre l'acidité, le sucre, par exemple pour atteindre l'acidulé. Et puis de l'acidulé, j'en ai fait quelque chose de très travaillé pour arriver à un acidulé qui provoque une sensation et qui fait saliver et qui donne envie d'en remanger. Mais tout ça s'est fait sur le temps. Il m'a fallu, avant de faire mon premier vrai mélange de goût, qui était rhubarbe, girofle, gingembre et mangue, il m'a fallu près de 2 ans.
Mais il y a par exemple quelque chose qu'on vous doit. Vous avez été le premier à mettre de la fleur de sel dans le chocolat. C'est venu du hasard de « ah tiens, je vais tenter ça » ou c'est justement ce difficile équilibre qui va provoquer un goût audacieux, nouveau, quelque chose que vous ne pensiez pas provoquer?
Il y a un peu de tout, mais il y a de ce que vous venez de dire en dernier. Je savais que le sel était un vecteur de goût. J'ai compris que c'était quelque chose de très agréable sur du poisson, de la viande. Je me suis dit, ça doit être bon si on croque dedans, quand on mange un sablé par exemple. Sauf que je me suis dit, mais le sel va fondre, alors comment je peux l'utiliser? J'étais loin d'imaginer d'abord que ce n'était pas un vecteur de goût, la fleur de sel, mais que c'était plutôt quelque chose qui permettait de ramener longtemps le goût en bouche, de prolonger le plaisir. Ça, je ne l'avais pas compris tout de suite. Mais par contre, je me suis vite rendu compte quand même que du chocolat avec quelques grains de sel dessus, de fleur de sel, ça devenait presque une épice, ça craquait dans la bouche, ça faisait un peu comme une stéréo, quoi. Et ça renvoyait le goût différents côtés, en haut, en bas, et que ça portait le goût du chocolat, et que c'était extrêmement bon. Et là, pour le coup, c'était très équilibré, avec quelques grains de sel, hein, pas beaucoup.
C'est infini, les possibilités en pâtisserie, quand
en cuisine ou en pâtisserie, c'est infini. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de trouver comment faire en sorte que ça devienne infini. Ça, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de compréhension. C'est pour ça que depuis toutes ces années, j'ai eu besoin d'hyper-intellectualiser tout ce que j'ai compris pour me créer une gustatothèque, pour bien la comprendre, pour bien placer tout dans ma tête, et que je n'ai plus qu'à, quand j'en avais besoin, à aller chercher ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire les goûts, et les ressortir, mais au travers de ce que je ressens.
Chaque gâteau est une part de vous-même.
Absolument.
Là, vous nous avez apporté 4 gâteaux qui, vous allez nous les présenter vous-même.
Oui.
Quelle part de vous-même est dans...
Dans chaque. Vous avez une tartelette avec plein de fruits secs caramélisés sur le dessus. Il y a du praliné au fond, il y a une crème glace fondante au chocolat. Bref, c'est un amalgame, si vous voulez, de saveurs chaudes. Chocolat, praliné. Et qui, en fait, c'est incroyable parce que quand je l'ai sorti lors d'une pré-ouverture de gâteau d'émotion il y a 1 an et demi, je me suis dit, on est au mois de juin. On ouvre jusqu'au 21 juillet. C'est quand même des saveurs assez chaudes, pralinées. Ça se vendra pas. On est ouvert pour 1 mois. On avait 5 gâteaux à vendre. Ah, mais c'est incroyable. Les gens n'achetaient pratiquement que celui-là. C'est hyper addictif, ce truc. Ça, c'est la partie gros câlin. Moi, j'ai besoin de gros câlins.
Vos gâteaux s'appellent les gâteaux d'amour. Pendant un temps, ils sont appelés la pâtisserie des rêves. Hein. C'était la pâtisserie que vous aviez ouverte.
Et c'est
aujourd'hui,
vrai.
C'est les gâteaux d'amour. C'est
les
des
gâteaux
câlins.
D'amour. Bah, c'est joli, ça. Je me permettrai de le réutiliser. Pour le deuxième, il y a la tartelette au citron. Alors moi j'ai mis du temps à... J'ai toujours fait beaucoup de tartelettes au citron, j'adore ça. Mais alors, pour faire une tartelette au citron qui, moi, où je me dise, enfin, j'ai fini par trouver, eh ben voilà, j'ai 56, j'avais 55 ans. En fait, c'est tranches de citron confit légèrement fondantes au fond, une crème au citron très acidulée sur le dessus, puis en dessous cette meringue toute blanche. D'ailleurs, on y met un peu de codinège, c'est un sucre glace avec plus d'amidon, pour imaginer un peu la neige. Vous voyez, des petites pointes de meringue toute blanche.
Je vois très bien.
Il n'y a pas de coloration. et en dessous, il y a un petit dôme, parce qu'en dessous, il y a une petite couche de praliné au sarrasin. Sarrasin, vous savez, le sobatcha qui craquouille, les Japonais font des infusions avec. Et le tout fait quelque chose de très acidulé, donc qui porte le goût et qui éveille les papilles. Et en même temps, il y a ce praliné qui en fait un acidulé gros câlin. De toute façon, c'est des gros câlins dans tous mes gâteaux, donc je peux tous les prendre. Même le gâteau aux fruits, il y a une tartelette aux fruits, à l'ananas et aux fruits de la passion. Il y a une crème ultra légère et on se dit, oh, mais il y a de la crème. Mais non, en dessous, il y a que du fruit. Il y a 1,5 cm, 2 cm de fruits et d'ananas. C'est extrêmement frais, mais il y a cette crème, en fait. En fait, je mets toujours quelque part... Il faut qu'il y ait ce petit côté de chou à la crème que je mangeais quand j'étais petit. Voilà.
Toujours retrouver cette part dans ce plaisir de manger sucré d'enfant.
Pour moi, c'est Ratatouille. Voilà, quand j'ai vu Ratatouille au cinéma, j'avais les larmes aux yeux. C'est génial qu'un message comme ça soit diffusé dans le monde entier, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est quand je me retrouve ou quand j'arrive à recréer, ce qui est difficile, hein. Un goût, c'est pas possible, mais un plaisir qu'on a pu ou que j'ai pu avoir quand j'étais petit. Alors ça, c'est quelque chose pour moi qui est, ça me ramène à la côte de Cochonzet, à ces plaisirs, voilà.
Philippe Conticini, je disais tout à l'heure que Joël Robuchon disait de vous que vous étiez le roi des desserts. Il disait aussi de vous que vous étiez parmi les plus doués et les plus modernes en pâtisserie. Or, j'ai vu, en lisant votre livre notamment, que vous avez revisité un certain nombre de classiques.
Oui.
Le Paris-Brest, que vous avez fait au cœur coulant de praliné. Praliné, on y revient toujours. Le millefeuille, la tarte tatin. Est-ce que revisiter des classiques, c'est le summum de la, pas forcément de la modernité, mais de la créativité?
En 2009, quand j'ai revisité les gâteaux, les classiques, pour l'ouverture de la pâtisserie des rêves à l'époque, en fait, le gérant de la pâtisserie des rêves qui m'avait proposé d'ouvrir une pâtisserie, à qui j'ai dit oui, j'avais mis une condition, c'était de faire des classiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'alors, on me disait toujours, que ce soit à Paris, à New York, au Japon ou ailleurs, ce que tu fais, c'est beau, c'est bon, c'est super, quel talent, c'est top, c'est créatif. Mais alors, on comprend rien du tout. Hein. Et j'en avais vraiment marre qu'on me dise qu'on comprenait pas. Et je me suis dit, là, je vais faire des classiques, au moins. On se posera plus la question, un millefeuille, c'est un millefeuille, une tarte citron, c'est une tarte citron, etc., etc. Par contre, moi, je suis rentré dans le cadre, qui était le classique, et j'ai écarté à mort les bords du cadre, non pas parce que j'ai besoin de place, hein, mais parce que ma sensibilité en a besoin. Et là, j'en ai fait, vous venez de le dire, pour moi, à l'époque, les gâteaux qui étaient les plus créatifs que j'ai fait dans ma vie. Parce que tout s'est passé à l'intérieur du gâteau, mais c'est le cas aussi pour ces gâteaux-là. Peut-être qu'extérieurement, ils le sont plus ou moins, mais à l'intérieur, c'est ultra moderne et ultra contemporain.
Parce que vous pensez aussi que la matière, la densité sont aussi importantes que le goût.
C'est plus que très important. Oui, pour moi, ça fait partie intégrante. Moi, j'ai découvert la matière et la densité. J'ai commencé à travailler en 2009 avec le Paris-Brest. Et j'ai compris qu'en fait, je la mettais sur tous mes gâteaux, les pâtes, les crèmes, cette densité, à partir de 2013. Et là, je me suis dit, il faut que je comprenne, il faut que je mette des mots, en fait. J'ai mis plein de mots sur plein de choses, et je me suis concentré sur la matière, en fait, la matière qui provoque cette densité. Et en un an et demi, j'ai compris, en fait, ce qu'était la base de du travail de la matière et de la densité. Et maintenant que je sais, je ne peux plus penser mes gâteaux sans penser d'abord et avant tout à la matière et à la densité, qui, en fait, sont partie non seulement prenante, mais même, plus que ça, partie majeure de l'émotion et de la sensation qu'on va ressentir en bouche.
Et c'est pour ça que les mots sont très importants, parce que vous avez toujours veillé à ce que l'appellation corresponde à la fois à la matière et à ce qu'on ressentait, c'est-à-dire à la matière et à la sensation. J'en prends un que vous aimez particulièrement, Philippe Conticini, craquouiller. craquouiller, ça exprime une texture entre le craquant et le croustillant, et puis ça a même donné lieu à des gâteaux que vous avez créés qui sont les craquounets.
Oui.
Mais on le visualise et on est avec le craquouillage, le craquouillant.
Oui, oui.
On est complètement dedans. Pourquoi c'est si important, ça?
Parce qu'il faut que ça corresponde. C'est important pour moi de... Si je vous dis, tiens, je vais vous expliquer cette sensation, ce que vous allez ressentir en mangeant, ça, c'est très personnel, par contre, là, attention. Hein. J'aime pas ce qui croustille, en fait. J'aime ce qui craquouille. Avant de trouver ce nom, j'avais pas le nom en bouche, mais j'aime ce qui fait... Et hop, ça se fond avec la crème qu'il y a dedans, le millefeuille, par exemple. Le feuilletage, il craquouille.
Et ou le cannelé bordelais.
Le cannelé.
On croque dedans et puis il y a trois effets. Une petite croûte qui craquouille, une pâte fondante et un praliné coulant.
Oui, ah, oui, oui, j'ai rajouté du praliné. J'en ai partout.
Mais t'es pas bien. Du praliné.
C'est pas bien. Oui, il y a un triple effet qui se coule.
C'est ça.
Je sais plus ce que je disais, en fait. Là, avec le praliné, vous avez encore...
Vous savez pourquoi vous savez plus ce que vous disiez? Parce que vous regardez comme nous
les
quatre gâteaux qui sont
évidemment
là et qu'on va découper pendant qu'on écoute la Madeleine.
Moi, je suis
et avant qu'il fonde, Philippe Conticini. Et vous écoutez les bonnes choses sur France Culture.
Mesdames et messieurs les professionnels, à vos marques. Prêts? Pâtissez.
Mathéo, restez avec nous, Mathéo Caranta,
bien, surtout. Bien difficile.
Restez avec nous pour nous parler donc de la personne que vous avez rencontrée qui vous a donné sa Madeleine, son souvenir gustatif
absolument.
À lui.
Absolument, je vous disais, c'est Mathieu Demy, le fils d'Agnès Varda et de Jacques Demy, qui était de passage à Paris, que j'ai retrouvé chez sa mère Agnès Varda, rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. Mathieu Demy, il est réalisateur, mais il est aussi acteur, et il est en ce moment à l'écran sur Arte dans Mytho, une série réalisée par Fabrice Gobert, vous savez, le réalisateur des Revenants. Alors si la série parle de mensonges, j'espère que Mathieu lui m'a dit la vérité pour sa Madeleine, son gros câlin à lui, et il remonte aux vacances de Noirmoutier vers une Madeleine sucrée dont le nom semble mensonger malgré tout, vous allez comprendre.
Alors ma Madeleine, je dirais que c'est le pain perdu que faisait ma grand-mère et qui ne ressemblait pas vraiment à du pain perdu. C'était plutôt comme une espèce de cake pas trop cuit, et j'ai jamais vraiment retrouvé la recette. En fait, depuis longtemps, j'essaie de chercher cette recette, j'essaie de recréer ce pain perdu, mais je n'y arrive pas. Donc en fait, c'est pas tout à fait une Madeleine, dans la mesure où je l'ai jamais retrouvée. Alors je crois que ma sœur a vaguement une piste pour essayer de le refaire, parce que donc Milou avait plusieurs recettes. Elle faisait la semoule de lait, le riz au lait, et le fameux pain perdu. Donc la semoule et le riz au lait, c'est des dossiers qu'on a à peu près réussi à maîtriser. Le pain perdu, on ne l'a pas. Elle habitait à Nantes et on se voyait plutôt à Noirmoutier, où moi j'allais en vacances avec mes parents. Et il y avait une grande cuisine qui est aussi la pièce de vie. Et c'est vrai que ma grand-mère, elle passait beaucoup de temps à cuisiner, à faire plutôt des desserts. Et c'est dans ce cadre donc qu'elle préparait ce fameux pain perdu. Donc en fait, c'est une Madeleine où il y a déjà une petite déviance sémantique originelle, n'est-ce pas ? Donc, ce qui rend le truc encore plus inaccessible. Visuellement, c'était un 4 quarts un peu sec, comme une espèce de sablé un peu. Mais il était, là où elle était très forte, c'est qu'il n'était pas assez cuit. Et donc, quand on coupait une tranche de ce pain perdu, le centre était tout à fait moelleux, voire même carrément pas cuit, quoi. Et l'extérieur étant plutôt, par exemple, la croûte du dessus et tout ça, c'était plutôt comme un sablé. Donc c'était une espèce de mi-cuit, mi-moelleux, mi-pain perdu. Alors au goût, un goût de sablé un peu avec une consistance qui changeait. On sentait principalement le beurre. Je pense qu'il y avait une tonne de beurre à peu près dans chacun de ces gâteaux. En plus, il y a quand même une espèce de proximité familiale avec la véritable Madeleine, je veux dire, on est sur du beurre, des œufs, une consistance un peu moelleuse, en tout cas pour le centre, un aspect un peu jaune. Après, le truc un peu magique, c'est qu'on court après quelque chose qui a disparu, c'est ça qui est beau, parce que si on en rebouffe toutes les semaines, c'est plus trop une Madeleine. Donc ça pourrait plutôt s'appeler à la recherche du pain perdu, vous voyez, mais j'ai jamais retrouvé la recette qui permet de faire cette espèce de cake bizarre que ma grand-mère appelait le pain perdu.
Trois questions pour vous, Philippe Conticini. Est-ce que vous faites du pain perdu ? Est-ce que vous faites des madeleines ? Et quelle serait votre madeleine proustienne à vous ?
Alors oui pour le pain perdu, oui pour les madeleines. Et la madeleine de Proust, pour moi, c'est, si je suis honnête, c'est l'éclair au café.
Qu'on appelait les Carolines ?
Exactement, bah oui. Qu'on appelait les Carolines, que je mangeais quand j'étais petit. Et ça m'est resté, en fait. Et le problème, c'est de trouver un éclair qui soit bon.
Le dessert qui a marqué durablement les esprits, en restant, je crois, 13 ans, à la carte de la table d'Anvers, c'est les croquettes de chocolat. Il y avait du praliné dans les croquettes de chocolat ?
Non, il n'y avait pas de praliné. Il y avait des... Et c'est drôle, parce que l'histoire, en fait, elle est simple. Je faisais à la première carte. Oui, c'est ça, sur la première carte des desserts, j'avais fait un gratin de poire à la chicorée. Et j'avais vu dans le livre de Escoffier, qui est ce grand cuisinier des années 1900, qui faisait des crèmes frites. En fait, c'était de la crème pâtissière à l'époque, qui était, bien sûr, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de tout ça, donc qui était béton, très sucré. et qui panait à l'anglaise et qui faisait poêler. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose, mais moi, je vais faire une crème pâtissière, une sorte de crème pâtissière, mais peu collée, donc un peu coulante. Je vais la passer au congélateur, je vais la paner et la frire et la poêler, quoi. Et ça marchait. Et puis un jour, je me suis dit, si ça marche avec des palets de crème à la vanille, ça doit marcher avec des palets de chocolat. Donc j'ai fait comme on fait des palets or, vous savez, des bonbons de chocolat. Et puis je les ai panés et ça a marché. Et puis après, je me suis dit, mais si ça marche avec... Tous les jours, je faisais des boules, je faisais des truffes. Ça marche avec des palets. Pourquoi est-ce que je fais des palets alors que j'ai des boules tous les jours puisque je fais des truffes? Donc je les fais avec des boules et sont nés les croquettes au chocolat.
Philippe Conticini, en 2017, vous avez ouvert une boutique à Paris. Le 9 novembre, il y en aura deux nouvelles à Paris. Mais il y en a aussi une à Londres et trois au Japon.
C'est ça, il y en a une déjà au Japon, il y en a deux de plus. Une qui vient d'ouvrir à Shibuya et une autre qui va ouvrir à Kyoto. Et puis celle à Londres, voilà, on sera après Noël, on aura augmenté le cheptel.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite pour continuer de faire du bon? Est-ce que vous ne craignez pas que, à grande échelle, vous perdiez cette merveilleuse faculté de faire des gâteaux artisanales?
C'est une vraie question. Alors, il y a une chose que je ne veux pas perdre, c'est l'émotion que je mets dans mes gâteaux. Ça, c'est pas possible. Dans chaque endroit où on va ouvrir, on a un laboratoire. Par exemple, au Japon, je travaillais avec l'équipe, cette équipe-là, depuis plus de 20 ans, pour du conseil, pour d'autres marques, la pâtisserie des rêves à l'époque. Donc, ils connaissent mon travail par cœur. J'ai goûté les gâteaux il y a peu de temps, qui ont fait l'ouverture de Shibuya, et ils étaient top. Le gars qui est en charge de ça me connaît par cœur. Et Paris, c'est pareil. Londres, on a un laboratoire là-bas, et la personne qui va y aller me connaît par cœur aussi. Je m'appuie sur des gens qui, au-delà de connaître les techniques, d'être des bons pâtissiers...
Qui vous connaissent,
qui
vous.
Qui me connaissent, moi. C'est surtout
quand vous avez un cœur grand comme ça, bah, vous pouvez en ouvrir quelques-unes.
Et donc, je veux des gens avec moi qui soient des gens bien. Alors, après, qu'est-ce que quelqu'un de bien? En tout cas, qui ont des vraies valeurs, en tout cas, qui correspondent à celles que moi, je défends et qui vont les mettre dans ce qu'ils vont faire au moment où ils vont le faire, quoi, au travers de mes gâteaux.
Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la pâtisserie, en quelques années, s'est ennoblie, mais au point parfois de devenir un produit de luxe? Il y a même certaines boutiques, quand on y va, on trouve qu'elles ressemblent quand même plutôt à des hôtels chics qu'à des pâtisseries. Est-ce que on ne perd pas la simplicité de l'enfance dont vous parliez tout à l'heure?
Si, on la perd parfois. Pas toujours, mais parfois. Après, c'est bien, avec toutes ces émissions de télévision, tout, et puis le travail des pâtissiers quand même, qui ont fait exploser la pâtisserie, et que ce soit la technique, le visuel, le goût, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant.
Et qui permet de faire reconnaître la pâtisserie comme un art majeur de la cuisine. Ça, c'est très important pour vous aussi.
Oui, c'est important. Avant 2005-2006, on va dire, le pâtissier, c'était vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. Et je me souviens, dans les années 90, avec Pierre Hermé à l'époque, mais on était... Allez, pas que deux, mais pratiquement, quoi. Et les autres, les pâtissiers, on n'en parlait pas. On parlait du cuisinier. De pas parler de quelqu'un, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de laisser aux personnes la possibilité de s'exprimer. De pas leur tenir la tête sous l'eau, quoi. Et donc, évidemment, à partir du moment où on les laisse s'exprimer, bah, eux développent tout ce qu'ils sont, toute leur créativité, et voilà, ça fait aujourd'hui ce qu'est la pâtisserie. Et c'est que le début, en plus.
Est-ce que vous voulez bien qu'on laisse Pierre Hiverna s'exprimer derrière vous, Philippe Conticini?
Un immense plaisir.
Alors, on va écouter la cerise sur le gâteau. Pierre Hiverna, vous nous annonciez un documentaire sur bien nourrir son cerveau.
C'est ça, Caroline. N'écoutant que mon courage face à mes limites de compétences avérées en matière scientifique, je me suis penché sur un documentaire actuellement à l'antenne sur Arte et dont le titre m'a intrigué « Bien nourrir son cerveau ». Parce que si nous sommes certains, autour de la table, tous d'accord d'ailleurs, pour constater que notre alimentation détermine un certain nombre de paramètres qui font que nous sommes en bonne santé, voire en forme, ou en très grande forme, ou dans un état pitoyable après trois foulées de jogging, avez-vous imaginé que, au-delà de nos poumons, nos muscles, nos intestins ou notre foie, nos capacités intellectuelles avaient aussi un lien avec ce que nous mangeons? Alors, première découverte avec ce documentaire, un nombre conséquent de chercheurs connectés, visiblement des pointures, à Bordeaux, Lisbonne, Cork, Melbourne, Lübeck et dans l'université de l'Oregon aux États-Unis, passent leur temps depuis quelques années à scanner nos méninges pour y observer à quel point le bon fonctionnement de nos neurones dépend d'une nourriture saine. Raphaël Ittier, le réalisateur, vous amène ainsi faire le tour du monde de ses labos en commençant par une étude menée en Australie sur la nourriture des femmes enceintes qui montre que celles qui se nourrissent de junk food, riches en gras, en sucre et pauvres en nutriments, donneraient davantage naissance à des enfants colériques. Bon, là d'accord, je l'avoue Caroline, l'état colérique étant un peu subjectif à mes yeux, ce premier exemple ne m'a pas convaincu. Mais la suite est édifiante, avec des expériences qui s'avèrent pour certaines assez spectaculaires. Tiens, par exemple, Philippe, les effets du sucre. Imaginez-vous que l'on vous met dans un scanner affublé d'un tube qui vous permet de siroter tranquillement le milkshake de vos rêves au parfum que vous adorez, le câlin absolu, celui du réconfort, un poil régressif, mais si bon. Si on vous pose des électrodes sur la tête, on peut aujourd'hui visualiser la partie de votre cerveau qui s'allume au moment de cette satisfaction, zone que les neurologues appellent celle de la récompense. Et si cette expérience est renouvelée régulièrement, on verra que les neurones sollicités s'intéressent de moins en moins à votre milkshake. Pour qu'il se rallume, il va donc falloir augmenter les doses. Encore plus spectaculaire, une autre recherche pour laquelle je demande à nos auditeurs sensibles au bien-être des rats de bien vouloir se boucher les oreilles quelques secondes. Dans ce laboratoire du CNRS à Bordeaux, on donne à des rats de la cocaïne et de l'eau sucrée jusqu'à les rendre dépendants aux deux substances, dont vous noterez quand même au passage que l'une est illégale. Au bout d'un certain temps, on met le rat en manque dans une pièce où il peut actionner deux trappes. L'une pour se faire une ligne de ce qui pourrait certes ressembler à du sucre glace, l'autre pour boire de l'eau sucrée. Et évidemment, il n'a droit qu'à l'une de ces deux options. Et là, Caroline, Mathéo, Philippe, sur 10 fois mis dans cette situation, à votre avis, que fait le rat ?
Le sucre.
Bravo Philippe, 8 fois, on le voit à l'image, il est comme un dingue et vient se faire une bonne dose de substance légale, pas chère et largement disponible. L'addiction au sucre est ainsi l'une des recherches fondamentales de ce que l'on appelle désormais la neuronutrition, discipline qui a un grand avenir mais qui ne va pas aider l'agro-industrie à se refaire une santé.
Merci Pierre et Bernard.
Super.
Philippe Conticini. C'est vrai qu'il y a un haro sur le sucre, haro sur le beurre, haro sur le gras aujourd'hui et depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, vous avez enlevé 70% de matière grasse, par exemple, sur le Paris-Brest. Le sucre.
Moi, je pense pas que ce soit le sucre vraiment qui soit dangereux. Ce sont nos excès qui sont dangereux. Et ce qu'on fait des produits qu'on a. C'est très bon, le beurre. Sauf qu'on en fait des excès phénoménaux. Et ce qu'on nous fait manger, ce qu'on achète et qu'on nous vend, enfin, c'est blindé de sucre, de produits. Enfin, c'est terrible ce qu'on nous fait manger. Il faut faire hyper attention. C'est pas pour ça que je désucre mes gâteaux. D'ailleurs, je les désucre pas. Hein. Mais je fais attention à l'équilibre. Mais en faisant attention à l'équilibre, je fais forcément attention à la quantité de sucre que je mets, à la quantité de gras que je mets, à la quantité de... Puisque tout est une question d'équilibre. Et le fait de se sentir bien...
C'est bon pour la santé.
Mais bien sûr, faut que ce soit bon
pour la santé.
Pour
la santé mentale.
Pour tout. Et pour la santé
notre
mentale.
Notre santé globale.
Quand on mange un gâteau, quand on mange un plat, il faut qu'on se sente bien, qu'on ait plus faim, mais surtout pas les joues rouges. Et voilà, il faut qu'on soit bien, quoi.
Merci beaucoup, Philippe Conticini, d'être venu dans Les Bonnes Choses aujourd'hui. Et merci pour ce livre, Cochon de lait, qui paraît au Cherche Midi. Un livre dans lequel vous vous racontez, qui est à la fois bouleversant et très gourmand, et qui se finit par une citation de Pablo Picasso. Si vous le permettez, je vais la lire. Quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphaël, mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et c'est très vous. Une fois qu'on a lu le livre, on comprend pourquoi. Merci beaucoup encore une fois. Puis,
merci.
Bon Conticini Tour, puisque vous vous lancez dans un Conticini Tour. On mettra tout ça sur notre site internet.
Merci pour votre bienveillance. Merci beaucoup.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduo, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Jean-Guy Lamège, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Witzmann.